Bonjour Nicolas.
Bonjour Charlie.
Comment allez-vous ce matin ?
Très bien et vous-même ?
Excellent, je suis ravi d'être là aujourd'hui avec vous. Bienvenue dans À la Fraîche, le rendez-vous estival de Fréquence Mistral. Tout au long de l'été, je vous propose de prendre une petite pause en découvrant des femmes et des hommes passionnés qui partagent leur parcours, leur univers et ce qui les anime parfois au quotidien. Et on y reviendra avec vous Nicolas. Aujourd'hui, je vous invite à ralentir quelques instants. Nous vivons dans un monde où tout va très, 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 très vite, où notre attention est constamment sollicitée. Et pourtant, il existe une pratique vieille de plusieurs siècles qui consiste simplement à s'asseoir, respirer et être pleinement présent. Ben, c'est pas si chose facile que ça, on y reviendra. Derrière ce geste en apparence simple se cache tout un chemin de vie que vous allez nous raconter, celui du zen et de la méditation zazen. Mais avant de découvrir cette pratique, Nicolas, j'aimerais revenir au début de votre histoire. Et alors, qui êtes-vous avant d'être sur un coussin de méditation, qui êtes-vous, Nicolas ?
Alors déjà, merci de m'avoir invité. Je me sens très privilégié et très honoré d'être ici. J'ai 42 ans. Je suis marié depuis une quinzaine d'années à une délicieuse épouse qui s'appelle Marion. Je suis papa de deux petites filles qui ont 11 et 5 ans, Léa et Élise, que j'embrasse. Et je suis travailleur social depuis 22 ans maintenant. Et je dis ça parce que c'est intimement lié aussi avec mon parcours spirituel. Et j'ai embrassé le bouddhisme, voilà, à peu près 24 ans. D'abord dans la tradition tibétaine, pendant une dizaine d'années, et puis là depuis 13 ans, dans la tradition zen, qui est la voie japonaise du bouddhisme. Voilà.
Quel enfant étiez-vous ?
Un enfant unique, déjà, dans tous les sens du terme. Un enfant plutôt réservé. Plutôt timide et souvent en quête de sens et de compréhension, voilà, du monde qui l'entourait.
Donc déjà dans cette recherche aussi du calme
Oui, dans une forme du silence et dans une forme de recherche d'apaisement et de sérénité. J'ai fait mes classes dans le catéchisme catholique, assez classiquement, et c'était déjà pour moi une voie spirituelle importante, même si après je m'en suis détourné, mais il y avait déjà chez moi cette quête de comment vivre bien avec soi-même et avec les autres. Voilà.
Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait un lien entre votre métier, votre parcours professionnel et le zen. Est-ce que c'est à cet endroit-là qu'il y a eu une rencontre ou ça s'est fait un peu avant ?
Ça s'est fait un peu avant. J'ai eu de la curiosité pour le bouddhisme avant d'avoir de l'engouement pour le social. Mais par contre, très vite, ça s'est rejoint parce que quand on travaille avec de l'humain, forcément, on travaille avec soi-même. Et l'autre est toujours notre miroir. Et donc, on est obligé, l'autre nous oblige à nous questionner et à revoir notre posture en permanence et à prendre de la distance avec tout ça. Voilà. Donc, c'est en ça que ça se rejoint.
Comment vous avez découvert le zen, le bouddhisme ?
Un peu par hasard, je me questionnais sur ma pratique bouddhiste dans la tradition tibétaine, qui est une tradition plutôt connue en Occident, parce qu'il y a la figure du Dalai Lama et que ça fait pas mal de pubs. Et puis il y a la cause tibétaine aussi, puis il y a eu quelques films avec Brad Pitt notamment. Je me questionnais beaucoup autour de ça, parce que la tradition tibétaine est magnifique, mais elle est très tibétaine. Elle est très empreinte du folklore et des croyances liées à cette région de l'Himalaya. Et j'avais du mal à harmoniser ça avec mon mode de vie occidental. Et non tibétain, français, européen, voilà. Et donc j'ai entendu parler du zen un peu par hasard en regardant Sagesse Bouddhiste le dimanche matin, Et il y avait un dojo pas très loin de chez moi, à l'époque je vivais à Aubagne, et j'ai fait un essai. Et la première fois, ça ne m'a pas du tout plu.
J'allais vous demander, voilà, la non, première séance de
pas
zen.
Pas du tout plu, parce que le contraste avec le bouddhisme tibétain était très, très énorme, trop important pour moi. Et donc, il a fallu un an de plus qu'on déménage à côté d'Aubagne, à La Ciotat, pour que là, je franchisse le dojo de La Ciotat et que je rencontre le moine zen qui allait ensuite devenir mon ami, mon maître. Et c'est là où j'ai accroché le zen. J'ai accroché parce que le zen est une pratique de l'épurée, on va dire. Voilà, qui il y a pas tout le folklore et les croyances et la richesse du bouddhisme tibétain, et ça coïncidait plus avec mon identité occidentale à ce moment-là.
Donc une pratique un peu plus épurée et accessible.
Oui. Oui, sans rien renier des préceptes bouddhistes et de l'enseignement de Bouddha, mais qui était beaucoup moins teinté des couleurs du folklore et de la culture tibétaine, qui est extrêmement riche, là où les Japonais sont plutôt dans la simplicité et la beauté qui réside dans la simplicité. Ça m'a plus parlé à ce moment-là.
On y reviendra sur le zazen, notamment les textes qui sont qui illustrent ce que vous dites là. Ils sont d'une simplicité parfois un peu déconcertante, en tout cas dans la lecture qu'on peut en faire, même si l'objectif c'est pas toujours d'analyser les textes qui nous sont proposés. Est-ce que vous avez encore ce souvenir de cette première séance de zazen qui vous a dit ça je veux continuer, quoi?
Oui, c'était
si vous voulez nous la raconter.
C'était très frappant. C'est aussi parce que c'est une histoire de rencontre humaine, c'est-à-dire que les deux moines qui tenaient ce dojo, y a eu aussi un coup de cœur humain, et je me suis senti accueilli aussi. Et donc ça facilite grandement quand même les choses. Mais c'est vrai que quand je me suis assis pour la première fois avec toute la bienveillance de ces deux moines qui m'ont expliqué comment m'asseoir et comment être là avec moi-même, je me suis senti à ma place, voilà, à la maison. Et vraiment, c'était la première fois où réellement je me sentais à ma place dans ce monde. Donc c'était assez fort. Voilà, et ça a duré tout le temps de la séance, qui dure une heure à peu près. Et c'était assez intense.
Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de poursuivre cette pratique ? Parce que là, ce qu'on comprend, c'est que c'est un ressenti du moment qui peut parfois aussi, ne pas s'expliquer. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez continué à pratiquer derrière ?
Parce que, justement, le zen venait mettre du sens dans une vie où j'avais tendance, comme vous le disiez en introduction, à courir un peu de partout. À m'accorder peu de moments pour prendre du recul et avoir un peu de l'intériorité. C'est d'abord par ça que ça m'a attrapé. Et je me suis dit, tiens, là, j'ai une opportunité pour avoir du temps un peu pour moi, différent, où je peux m'arrêter de courir et où je peux avoir une forme d'introspection. Et avec un bien-être aussi réel, physique, à la fin de cette heure de méditation. Donc c'est en ça que j'ai voulu continuer. Et puis après, plus largement, parce que le zen, c'est une proposition de vie aussi. Donc voilà.
Ma question était, à quel moment c'est devenu une véritable philosophie de vie pour vous connaître un petit peu, Nicolas? En tout cas, c'est une pratique quotidienne pour vous aujourd'hui. À quel moment c'est devenu quelque chose d'ancré au quotidien pour vous ?
En fait, depuis toujours, parce que quand on embrasse les préceptes du bouddhisme, le bouddhisme, c'est un chemin de vie en soi. Et donc, forcément, on ne s'engage pas dans le bouddhisme sans que ça se traduise en acte au quotidien. Donc, depuis toujours, presque. Mais c'est vrai que le zen... alors même qu'on pourrait penser que c'est une pratique un peu individuelle, et en fait le zen m'a peut-être plus ouvert encore à ce que je pensais être extérieur à moi-même que ne l'avait été le bouddhisme tibétain. Et donc, du coup, quand il y a une ouverture qui se crée, il y a l'espace pour accueillir tout ce qui se présente. Et c'est en ça que c'est devenu quelque chose de quotidien pour moi. Voilà. Et d'autant plus dans ma pratique professionnelle, où je travaille avec de l'humain qui a des parcours de vie complexes, difficiles. Et pouvoir avoir cette ouverture-là, c'était nécessaire pour continuer aussi ma pratique professionnelle.
Comment ça se traduit dans votre pratique professionnelle? Qu'est-ce qui, si, pour qu'on puisse visualiser un peu comment vous pratiquez le zen dans, au travail?
Ça commence déjà par ne pas ouvrir ma boîte mail tout de suite. C'est le prendre le temps d'arriver, de dire bonjour aux gens que je croise, de discuter un tout petit peu avec eux. Et une fois que j'ai fait ça et que je rentre dans mon bureau, c'est prendre 3 minutes pour respirer. Et ensuite, dans les interactions que je peux avoir avec les personnes qu'on accompagne, ça va être avoir du temps d'écoute de qualité pour eux. Sans rien dire, juste en écoutant et juste en étant là, présent pour eux. Et très souvent, ça suffit que de vouloir absolument tout de suite mettre en mouvement quelque chose de l'ordre de l'accompagnement social classique et tout ça, quoi. Il y a d'abord la rencontre humaine, et ça c'est, voilà, ça c'est le... Sans le zen, j'avais déjà perçu ça, mais le zen est venu renforcer ce sentiment-là.
Il y a quelque chose d'un peu mystérieux, vous avez un titre un peu mystérieux, Nicolas, aujourd'hui, non? De mettre zen...
Surtout pas.
Non?
Surtout pas. Pour être maître zen... c'est une grande question, ça. Je crois pas. Dans la tradition zen, il y a un échelon comme ça, un petit peu. On est pratiquant laïque, et puis quand on s'engage vraiment dans la voie, on est ordonné. On est ordonné sur un premier niveau, on va dire, c'est pas vraiment comme ça que ça se définit, mais un premier niveau qui est l'ordination de bodhisattva, donc on n'est pas encore moine, mais on s'engage à œuvrer pour le bien-être de tous les êtres. Ce qui n'est pas rien, quand même, comme engagement. Et après, il y a l'ordination de moine qui vient confirmer la première ordination. Et on a une vie un petit peu complètement dédiée à la pratique du zen, mais aussi à la pratique religieuse du zen. Et ensuite, quand le maître zen estime que son élève a suffisamment cheminé ou a atteint un certain degré de sagesse ou de compréhension de la pratique, il a la possibilité de lui transmettre le titre de maître zen, qu'on appelle le shio en japonais, et c'est comme ça qu'on devient maître zen. Okay.
Donc mais c'est un long chemin,
mais ça n'est qu'un titre. Il faut parfois, enfin moi je suis très méfiant vis-à-vis des titres. Voilà, je crois que il y a des maîtres zen qui s'ignorent, et c'est très bien ainsi s'ils s'ignorent. Les enfants sont des maîtres zen par excellence, parce qu'ils nous ramènent à une simplicité, à une spontanéité, à un instant présent systématiquement. Et pour moi, ce sont les plus grands maîtres zen. Donc non, je ne suis pas un maître zen. Je suis quelqu'un qui pratique, qui a une certaine expérience dans la pratique et qui aime partager cette pratique avec d'autres et partager ce que j'ai appris, j'ai transmis. Mais ça s'arrête là. Voilà, c'est pas, j'ai pas de titre. Non. Je ne suis pas ordonné. J'ai une pratique bouddhiste dans ma vie privée, dans ma vie intime. Mais je ne suis pas ordonné religieusement, et donc à cet égard-là, je n'ai pas de titre particulier.
C'est ce qui fait aussi le charme, je dirais, de l'association le son de la vallée sur lequel on reviendra en deuxième partie d'émission. On va se faire une petite pause musicale et on revient tout à l'heure sur Fréquence Mistral.
Encore l'insomnie, sonnerie du matin. Le corps engourdi, toujours endormi, miroir, salle de bain. Triste face à face, angoisse du réveil. Reflet dans la glace, les années qui passent ternissent le soleil.
Ok. Au flash d'infos, les crises, le chômage, la fonte des glaces, les particules fines, courir après l'heure, les rames bondées, les passes ton regard, la vie c'est l'usine hamster dans sa roue. Tichel grand bourreau, faire la queue partout, font la gueule partout, la vie c'est robot.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
Encore fatigué, la cloche du midi, le corps assommé, toujours épuisé, les masques sont mis, triste face à face. Poursuite du bonheur, reflet dans la glace, les années qui passent flétrissent les fleurs.
Ok.
Les écrans, le bruit, l'argent, les crédits, les phrases assassinent, les cons, les cancers, le temps qui s'écoule, le vide qui se fait, le silence épais, la vie c'est la guerre tournée dans le tambour. Amour placebo, faire semblant pour tous, c'est violent partout, la vie c'est Rambo.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
Les yeux ouverts ne trouvent pas le sommeil, dans le lit tourne tout le temps. Les phares des voitures balayent le plafond de leurs ombres dansantes. La nuit étouffe, la chaleur est lourde, l'orage est en suspens. Où sont les rêves, où sont nos rêves d'enfants? S'échapper, déserter les rangs, s'évader des tapis roulants, chercher le silence et l'errance, raccrocher, trouver sa cadence, se foutre des codes, des routines étroites, quitter son rôle, les cases et les boîtes, ne pas craquer, claquer, cramer, desserre ton col pour respirer.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
Respire. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
On est de retour dans À la fraîche avec Nicolas qui nous parle de méditation, de zen et de la pratique du zazen. On vient d'écouter Gaël Faye, Respire. Je trouve que ça va très très bien avec l'émission puisque dans la pratique du zazen, il y a la respiration, le souffle qui est là. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer c'est quoi le zazen, c'est quoi la pratique du zazen? Je sais que ça va être compliqué en si peu de temps, mais...
Alors, c'est une zazen, c'est une... C'est la porte d'entrée d'abord dans la voie du zen, souvent, et c'est donc une technique méditative qui est vieille de plusieurs centaines d'années, pour pas dire plusieurs milliers d'années, parce qu'on pourrait considérer que le premier à s'être assis en zazen, qui était le Bouddha, voilà, il a initié cette pratique-là. Mais zazen, c'est une pratique qui a inspiré beaucoup de pratiques méditatives laïques aujourd'hui, comme la mindfulness, comme la méditation de pleine conscience qu'on peut pratiquer dans certains clubs de yoga, sur certaines applis. Donc elle a été à l'origine de ça. Zazen, c'est une forme de méditation qui est non guidée, où toute l'attention est portée sur la respiration, sur le souffle et sur cet instant fugace qu'on appelle l'ici et maintenant. Mmh. Voilà. Voilà, j'ai fait bref.
Si on rentre, quel est le rôle de la respiration là, dans cette pratique du zazen, puisque c'est un rôle très, très important. Et il y a la posture, la oui. position aussi.
Oui, oui. Alors zazen se pratique... Alors za d'abord, za veut dire assis, zen veut dire présence. Mmh. Donc on s'assoit en présence.
Qui résume bien le zazen.
Résume plutôt bien le zazen, puisque traditionnellement, on s'assoit sur un coussin, en lotus, demi-lotus ou à la Birman, selon notre souplesse. On peut aussi s'asseoir sur un banc ou sur une chaise. Il y a deux concepts dans zazen qui guident un peu zazen. Il y a deux termes japonais, shikantaza, qui veut dire simplement s'asseoir ou juste s'asseoir, et rien que cela. Et mushotoku, qui veut dire sans but et sans objet. Donc c'est une pratique méditative où l'on s'assoit, où l'on observe notre respiration, notre souffle, où on accueille ce qui se présente à la fois dans notre corps, mais aussi ensuite ce qui se présente à l'extérieur de nous, et rien de plus. Et le souffle a un rôle primordial parce que, précisément, c'est ce qui nous permet de vivre, d'être en vie, entre autres. Mais sans le souffle, on ne peut pas vivre. Donc, c'est une fonction essentielle, voilà, à notre corps et à notre vie. Donc, elle a une place, la respiration a une place prépondérante dans Zazen.
Et c'est aussi ce qui peut nous raccrocher, à mon sens, à l'instant présent, le souffle.
Oui.
Parce que quand on pratique Zazen, on a ce moment de vide dans la pratique. Peut-être l'idée, c'est de nous raconter aussi une séance de zen, comme on le vit au sein de l'association dans lequel vous êtes et que vous animez des séances. Pour moi, l'idée aussi, c'est de venir raccrocher grâce au souffle, aux pensées qui nous traversent dans ces séances.
Oui, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de méditations ou en tout cas d'enseignants de méditation qui prônent la non-pensée. Et en réalité, on ne peut pas ne pas penser. Notre cerveau est entre autres programmé pour ça. Il produit de la pensée, ça fait partie de ses fonctions. Par contre, là où Zazen peut nous aider, c'est qu'il nous permet de reprendre un peu la main sur ses pensées et de ne pas se laisser embarquer par une pensée qui va en amener une autre et ensuite une autre et ensuite une autre. Et en fait, on ne voit pas le temps défiler, voire même on ressort de là avec l'esprit plus embrouillé qu'autre chose. Et c'est là où la respiration et le retour à la respiration et à l'attention portée à la respiration nous permet d'accueillir les pensées, mais de les laisser partir aussi. Et c'est en ça que Zazen est une forme de méditation assez puissante, et en même temps qui nécessite un petit effort de concentration.
Et alors concrètement, pour qu'on puisse visualiser une séance de Zazen, comme vous le pratiquez au sein de l'association ?
Alors au sein de l'association Le Son des Vallées, Zazen dure une heure. Elle se divise en deux parties, 25 minutes de méditation assise en silence quasi total. Et puis après, on a 5 minutes de marche méditative, qu'on appelle kinin en japonais, où là, on marche, on cale vraiment notre pas sur notre respiration. Donc c'est une autre forme de méditation. Et ensuite, on repart sur 25 minutes à nouveau de méditation assise, où dans ces 25 minutes-là, il peut y avoir un texte écrit par un maître zen, ou quelques points d'indication sur la posture, ou quelques points d'indication sur l'esprit du zen. Voilà. Et au bout de ces 25 minutes, tout s'arrête et tout recommence.
C'est une pratique silencieuse ?
Oui.
D'où le fait que l'esprit peut vaguer à ses occupations et nous embrouiller assez facilement.
Oui.
Le silence, c'est...
Le silence peut être déconcertant, parce que, en plus, dans notre pratique de Zazen, on est les 25 premières minutes face au mur. Et donc, on est face...
Ça, c'est intriguant.
Ça, c'est intriguant. en tout cas, dans le Zen Soto, qui est le Zen principal au Japon, on pratique face au mur. Et donc, on pratique face à rien, face au vide, et donc face à soi-même. Et donc, ça peut être un petit peu déstabilisant, d'où l'importance vraiment de ne rien forcer dans Zazen, de rester vraiment le plus naturel possible et d'être attentif. Voilà, attentif à soi, à cet instant voilà, qui est là, qui s'offre à nous, et de ne pas se laisser embarquer par les pensées, justement.
C'est une pratique qui est très... qui a beaucoup de, enfin, dans lequel il y a des rituels, c'est très ritualisé, il faut attendre le gong pour démarrer, on rentre, on passe la porte au moment où on arrive pour venir pratiquer, c'est très ritualisé quoi.
Oui. Et encore nous, au Son des Vallées, on a déritualisé un maximum parce que nous sommes une association laïque. Autant je vous le disais, dans ma vie privée, je pratique la forme religieuse du bouddhisme zen. Autant au sein de l'association Zen Le Son des Vallées, on a eu à cœur, avec mon épouse qui est la cofondatrice, de proposer un zen laïque, c'est-à-dire épuré de tout cérémonial religieux. mais pas de tout rituel, par contre. Et en effet, quand on rentre dans le zendo, on franchit la porte, on la franchit du pied gauche parce qu'on rentre du côté du cœur, parce qu'on va pratiquer avec tout notre cœur aussi. Généralement, pour ceux qui le souhaitent, on peut saluer l'autel où il y a un petit Bouddha, une petite bougie et de l'encens. Et après, on va taper sur un bout de bois qui est l'appel à la pratique, un peu comme le muezzin, quand il chante et qu'il appelle à la prière. Nous, les Japonais tapent sur un bout de bois, et donc on fait ça nous aussi. Et après, il y a un son de cloche. Récemment, on a introduit un nouveau son de cloche qui vient indiquer quel est le dernier pratiquant qui est rentré dans le zendo, c'est-à-dire que tout le monde est là, on peut y aller. Et puis après, il y a trois petits sons de cloche qui marquent le début de Zazen et qui vont ensuite marquer la fin de chaque partie de la séance.
Quoi. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait tous ces symboles, tous ces moments
Alors ça prend son origine dans la vie monachale des moines japonais qui, pour ne pas se focaliser sur le temps qui passe, en tout cas pour rester concentré dans l'instant présent et ne pas anticiper, la vie était rythmée, et elle l'est toujours dans les temples zen, elle est rythmée par des sons, ce qui évite de regarder l'horloge toutes les 5 minutes et de vraiment se laisser porter par l'instant présent. Et c'est le son qui va nous ramener à « tiens, qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» Donc il y a un son pour pratiquer zazen, il y a un son pour pratiquer des cérémonies, il y a un son pour manger, il y a plusieurs sons même quand on mange, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la journée. Et ça permet vraiment de se laisser porter par l'instant.
Oui, et d'être effectivement dans une forme un peu de lâcher prise,
oui.
et de se laisser porter, d'être, comme on l'évoque, dans cet instant présent. Quoi. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que cette pratique, elle est accessible. Quoi. Pour en avoir déjà discuté avec vous, elle est accessible. Il ne nous faut pas grand-chose pour démarrer cette pratique. Un coussin, presque.
Un tapis.
Et un tapis, et on démarre. Quoi. Et ça, je trouve ça très, très fort. Ça va avec la philosophie, bien évidemment, du zen, mais...
Oui, c'est tout le paradoxe du zen, c'est qu'à la fois, c'est très accessible, et en même temps, c'est pas si évident que ça une fois qu'on y est. Et il faut un peu persévérer au départ. Mais très vite, on perçoit les bienfaits quand même de cette pratique-là. Et donc ça, même si au début, c'est pas si simple, parce qu'on n'est pas habitué à s'arrêter et ne rien faire pendant une heure, surtout dans ce monde-là dans lequel on vit. Et pourtant, à la fin de cette heure-ci, on se rend compte à quel point ça fait du bien de rien faire.
C'est ça qui est déstabilisant, en fait. C'est ce côté... c'est un temps tellement simple, juste de se poser, de ne pas être... c'était mon introduction, mais c'est la réalité, quoi. De ne pas être empêché, embêté par une notification, par un coup de fil. C'est un moment qui est quand même... plus qu'une bulle, quoi. Et je trouve que c'est une fois qu'on rentre dans ça, qu'on y a goûté, c'est difficile de s'échapper de ça. Et on peut le pratiquer à d'autres endroits, au travail, vous le disiez. Je sais que je le pratique aussi quand je vais courir ou que je vais marcher, de pouvoir se poser juste, d'être dans cet état d'esprit de l'instant présent, quoi. Et ça, on peut le retrouver à d'autres endroits.
Oui.
Ça, c'est très, très fort.
On peut le retrouver à chaque endroit de notre vie. Quand on marche dans la rue, combien de fois on prend conscience de notre respiration, de « tiens, je suis en train de marcher »,« tiens, je marche, je respire et j'entends le bruit des oiseaux ». Parce que souvent, on est pressé d'arriver à notre destination et pour un peu qu'on soit un peu en retard, comme ça m'arrive fréquemment, on a tendance à presser le pas. Mais quand on a goûté à cet instant de contemplation en zazen, on se rend compte qu'on peut l'étendre au-delà du zendo, au-delà du coussin et dans la vie de tous les jours.
Nicolas, merci. Merci d'avoir partagé avec nous votre parcours, votre regard sur le zen.
Merci à vous.
Sur la méditation. On retiendra peut-être qu'il suffit parfois de s'accorder un moment pour ralentir. Vous venez d'en parler, de respirer. De prendre le temps d'être pleinement présent aussi, d'observer ce qui nous entoure juste, et c'est parfois suffisant. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Fréquence Mistral pour une nouvelle rencontre, un nouveau parcours de vie et un nouvel univers à découvrir. Toujours à la fraîche, à très bientôt.